Bienvenue au balado « D'une langue à l'autre » de la Fédération des travailleuses et travailleurs du Québec. Je m'appelle Caroline Dawson, je suis québécoise d'origine chilienne, autrice et sociologue, et dans ce balado, je vais à la rencontre de personnes issues de l'immigration qui, comme moi, ont développé une belle curiosité pour le français en arrivant au Québec et qui s'en servent aujourd'hui comme levier majeur au travail. Ça prend une force incroyable pour passer à travers le processus d'immigration, de francisation, mais aussi pour réussir à garder le moral dans une quête vers un emploi à la hauteur des acquis. D'autant plus lorsqu'on est une femme, c'est pas gagné d'avance. Aujourd'hui, je reçois Maria, qui travaille à la Société de transport de Montréal, ainsi que Marcella, qui travaille à Hydro-Québec, deux déléguées syndicales qui ont fait de gros efforts pour en arriver là où elles sont. À leur tour, elles aident leurs collègues à traverser des moments difficiles. Bonjour Maria, bonjour Marcella. On va commencer tout de suite en vous demandant qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez quitté votre terre natale? Pourquoi êtes-vous partie et pourquoi le Québec?
Mon nom c'est Marcella Quinones, je suis d'origine colombienne. Puis ça fait 15 ans que je suis ici au Québec. Donc, les raisons pour lesquelles j'ai décidé de quitter la Colombie et débuter une nouvelle vie au Québec, c'est parce que depuis que j'étais jeune, j'ai pensé que le monde était plus grand que ma Colombie natale. Donc, c'était plus le sens de la curiosité de dire qu'est-ce qu'il y a ailleurs des frontières de la Colombie. Puis, voilà, ça a été toute une histoire qui a débuté en 2007. Et on est arrivé ici en 2009. Donc, voilà les raisons.
Et quand vous dites « on », c'est qui le « on » ?
Je suis arrivée ici avec le père de mes enfants et mes deux enfants. À cette époque-là, il y avait 4 et 6 ans.
Ah, et Maria ?
Oui, je viens du Mexique. Moi, je suis arrivée ici en 2005. Pour moi, c'était aussi la curiosité. Mais quand j'étais à l'université, je voulais faire une maîtrise à l'étranger. Donc, c'est ça qui m'a poussée davantage à faire des recherches pour venir ici. D'ailleurs, quand je faisais mes études universitaires, mais j'ai commencé à étudier le français. Donc, je me disais, si un jour je pars, il faut apprendre pas seulement l'anglais, mais aussi c'était le français que j'ai eu l'opportunité, la chance de l'apprendre quand j'étais en secondaire.
Aha, donc, déjà, vous aviez une base de la langue avant de venir.
Oui.
Est-ce que c'était votre cas aussi, Marcella?
Non, je connaissais à peine quelques mots quand on a vraiment arrivé ici au Québec.
Est-ce que c'était le cas pour votre conjoint aussi?
Ah oui, tout à fait. Puis lui, il ne parlait même pas anglais, fait que c'était moi la seule traductrice au moment de notre arrivée. Les enfants, vu qu'il avait juste parlé l'espagnol, mais ils ne comprenaient pas ni l'anglais ni le français.
Au début, quand vous êtes arrivée, comment vous faisiez pour vous faire comprendre?
Mais moi, pour ma part, c'était l'anglais. Ça, c'était les moyens les plus rapides. Mais quand j'ai décidé de switcher en français, ben, je me disais, je vais parler plus lentement.
Et Maria?
Moi, je parlais. Je savais que les gens, probablement, ne comprenaient pas ce que moi, je disais. Mais quand je suis arrivée, je me souviens, il y avait un étudiant français. Je faisais des séances comme un partage des langues. Donc, moi, je lui apprenais l'espagnol, lui, il m'apprenait le français. Donc, j'ai fait ça quelques semaines pour m'aider aussi à mieux m'exprimer.
Et comment ça se passe à la maison? Quelle langue parlez-vous?
Mais moi, je suis mariée avec un Colombien. Donc, c'est sûr qu'à la maison, on parle l'espagnol. Mais on écoute la télé en français, en anglais, en espagnol, les trois langues.
Et Marcella?
Dans mon cas, moi, je me suis séparée du père des enfants. Et tout le temps qu'on était ensemble dans la maison, on a dit les racines, c'est important. Donc, on a toujours parlé espagnol à nos enfants. Par contre, eux, comme frères, ils se parlent toujours en français. Et tout son cercle d'amis extérieurs, c'est anglophone. Fait qu'ils sont aujourd'hui des enfants complètement trilingues.
Mais quand vous sortez du cercle familial, là vient le français. Comment se sont faits les premiers liens avec les Québécois, je dirais, Marcella?
Quand je suis arrivée chez Hydro-Québec, mais je suis rentrée comme préposée aux inventaires. Fait qu'ils m'ont engagée juste pour faire la transcription des documents à un ordinateur. Donc, ils se sont assurés que j'avais pas de contact avec les autres employés qui étaient dans la place. Mm-hmm. Mais il y a eu un gestionnaire qui m'a appelé puis m'a dit, est-ce que c'est toi qui fais la transcription des documents? Puis j'ai dit, oui, oui. Il m'a dit, viens à Montréal, j'aimerais te voir. Il a pris mon CV, il a ressorti mon CV, puis mon français, il n'était pas très bon à cette époque-là. Fait qu'il m'a dit, parle-moi plus de toi. Mais c'était la première fois que j'ai vu que quelqu'un s'intéressait pour vrai, sincèrement à moi. Et je remercie aujourd'hui ce gestionnaire parce que c'était un des premiers liens professionnels pour moi en français. C'est lui qui m'a francisé, dans le fond, le français des business que je connais aujourd'hui. J'y dois tout à lui. Et il a cru tellement que les immigrants y étaient forts que son équipe de 15 personnes était composée que des immigrants. Donc, il a fait un bon programme de francisation, même si ça n'a jamais été reconnu dans son équipe, mais il était notre prof de francisation.
Et Maria?
En fait, avant, dans mon ancien emploi, j'étais à la banque. Et puis, il y avait un collègue dont la plupart des employés étaient plus âgés que moi. Donc, lui, je pense qu'il me voyait plus comme une fille. Donc, il me donnait des conseils. Et si on avait des choses à régler, mais on s'assoyait ensemble. J'ai bâti quand même un bon lien avec cette personne-là. Je pense que oui, des fois, on est entouré quand même de très bonnes personnes, des personnes qui sont ouvertes à nous aider. Donc, il faut demander de l'aide.
C'est des belles histoires de gens qui vous ont pris sous leur aile. Et après ça, ça donne l'envie de faire la même chose pour les autres.
Hein. Oui, oui. J'ai même vécu avec une dame québécoise. Elle me louait une chambre. Donc, elle m'aidait même avec mon projet de maîtrise, juste à s'assurer qu'il n'y avait pas d'erreurs dans l'écriture. C'était vraiment génial. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance à rencontrer des gens formidables ici à Québec qui m'ont beaucoup aidé, surtout dans mes premières années à mon arrivée ici à Montréal.
Si je peux me permettre de rajouter, moi, dans mes premières années, c'était beaucoup de bénévolat. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il faut que tu fasses beaucoup de bénévolat parce que tu peux les mettre dans ton CV. Puis, on sait que plus on rajoute dans le CV, plus ça va être bénéfique pour nous. Fait que oui, ça m'a aidé d'approcher les personnes âgées, les banques alimentaires, les églises à but non lucratif. Fait que toutes ces choses, ils m'ont beaucoup aidé avec la connaissance de cette culture. Parce que des fois, ça nous fait paniquer quand on arrive ici. On ne veut pas les approcher parce que ça parle vite, on ne comprend pas cette français. Souvent, il y a des gens qui disent que quand ils arrivent avec un français international, tu arrives ici puis il n'y a rien qui se rassemble.
Mon conjoint, il dit ça. Il vient de la Suède.
Ah oui?
Et lui, il parlait français un peu en arrivant. Mais il me dit, je pensais que je parlais français. Je suis arrivée au Québec.
Oui.
Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a eu des épreuves qui se sont présentées à vous quand vous avez appris le français?
Moi, dans mon cas, c'était lors de ma séparation parce que ma zone de confort, c'était l'intérieur de la maison où ça se passait qu'en espagnol. Et moi, j'étais victime de violences conjugales, donc je me suis ramassée dans une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Et le fait de ne pas pouvoir exprimer pendant un traumatisme comme ça mes besoins primaires, m'a fait forcer plus l'apprentissage du français parce que même les travailleurs sociaux, même s'ils avaient la toute bonne intention, mon choc était tellement fort que ça sortait pas le français, ça sortait pas l'anglais, c'était que l'espagnol. Puis il y avait pas malheureusement de services à cette époque-là pour pouvoir m'aider. Et quelques années plus tard, après avoir guéri les chocs et tout ce traumatisme, mais je suis devenue marraine des deux maisons. Fait que quand il y a des femmes qui arrivent dans le réseau des maisons, mais moi je suis appelée par les directrices pour pouvoir offrir quelques heures d'accompagnement aux femmes qui sont hispanophones.
Je suis vraiment désolée que vous ayez eu à vivre ça. C'est affreux.
Mais je remercie plus la vie parce que ça m'a permis de gagner un courage que je ne savais pas que j'étais capable d'avoir.
Oui, une force incroyable en tout cas. Et le fait que vous redonniez au suivant ensuite, c'est très beau aussi. Là, le fait que vous fassiez ce que vous auriez eu besoin d'avoir finalement. C'est très inspirant, sincèrement.
Moi, je me suis confrontée souvent à cette réalité. Si mon français n'était pas assez impeccable, je ne pouvais pas passer aux prochaines étapes dans ma carrière. Et donc, il fallait prouver que j'étais bonne, mais tout passait par le français. Parce que même mon CV n'était pas assez forte ou mes formations pour avoir la place que j'avais besoin. Pas que j'avais besoin, mais que j'ai mérité. Puis beaucoup des cours que j'ai faits, je les ai faits de mon propre argent, dans mon patelin. Puis mes enfants, ils ont dû énormément faire d'efforts pour nous franciser, pas juste à moi, mais à son père aussi, les franciser. Fait que, justement, j'ai parlé avec eux en fin de semaine, puis ils ont dit, si on comptabilisait tout l'argent que tu as payé, que tu as sorti de tes poches pour pouvoir améliorer ton français, tu aurais pu acheter une maison. Ben, en exagérant, mais ouais.
Une espèce de cercle vicieux dans lequel on se trouve finalement là, pour pouvoir payer des courses, apprendre des emplois qui sont de ce niveau-là, mais on ne peut pas avoir cet emploi-là parce qu'on n'a pas le niveau de français.
Ouais.
Quand vous êtes arrivée, est-ce que vous êtes tout de suite allée sur le marché du travail ou vous avez d'abord pris des cours de francisation ou en fait, comment ça s'est passé votre arrivée après?
Bon, en fait, moi, je suis commencé tout de suite mes études, ma maîtrise à l'École polytechnique.
À l'École polytechnique de l'Université de Montréal?
De Montréal, oui.
Donc, en français direct?
Oui, tout de suite.
Oh là là.
En fait, je suis arrivée un dimanche. Lundi, j'ai commencé l'école.
Ah,
ben, bon, l'université, c'est... en fait. Ouais.
Est-ce que vous compreniez tout ce qu'on disait?
Non. Au départ, c'était un peu difficile pour moi de comprendre. Et surtout, j'avais toutes mes lectures, beaucoup de choses en anglais, mais tous mes cours étaient en français. Donc, il y avait beaucoup de traductions dans mon cerveau.
OK, je comprends.
Ouais.
Et Marcela?
Dans mon cas, ben, c'était vraiment comme apprendre à avoir un deuxième cerveau, hein, parce que c'était beaucoup de traductions de l'anglais à l'espagnol, puis rentrer le français dans tout ça. Puis 4 mois après de notre arrivée, mais on a réussi à avoir une place pour faire la francisation. Mais sauf que pour nous, l'argent s'est fini assez vite parce que l'échange de devises colombiennes à canadiennes, mais ça, ça va, si ça, oui. Ça va vite. Donc, malheureusement, j'ai eu juste la chance de faire 3 mois de francisation, puis après, rapidement me placer sur le marché du travail.
Et est-ce qu'après 3 mois de francisation, votre français était assez solide pour rentrer justement sur le marché du travail?
Mais c'est sûr que le français, c'est une langue qui demande beaucoup d'efforts, de concentration, même si on dit que ça se ressemble beaucoup à l'espagnol. Puis la peur de se tromper, de ne pas se faire comprendre complètement, c'est ça que m'a fait comme rentrer dans le marché du travail en anglais. Puis à temps partiel, mais j'ai fait essayer un peu de francisation, un peu de français à la maison. Puis mes premiers profs, c'était mes enfants, dans le fond.
Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'emploi?
Bien, c'est sûr, d'un, d'aller chercher un salaire plus compétitif pour les marchés du travail. Puis deux, je me suis rendu compte qu'on était arrivé au Québec, il fallait que j'apprenne le français. Fait que je disais, je ne peux plus rester ici en sachant que c'est une province francophone et ne pas parler le français. Fait que c'était juste un peu par courage d'aller chercher un emploi en français. Puis je commençais à travailler dans une usine. La différence, l'écart, parce que dans mon pays d'origine, mais j'étais chef d'entreprise, j'étais la boss. Puis là, maintenant, c'était rendu à être un employé de plancher, là. C'était ça, c'est aussi une confrontation psychologique quand on arrive ici.
Ah, ça, je comprends vraiment. Ça, c'est le cas, je pense, de la plupart des immigrants qui arrivent, c'est ça. Mm. Les diplômes ne sont pas reconnus ou leurs compétences ne le sont pas. Mais est-ce qu'un emploi en usine, ça vous a permis d'améliorer votre français ou pas?
Je pense que c'est la meilleure façon pour pouvoir rencontrer plein de gens qui... Petit à petit, ils vont apprendre à parler le français. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'immigrants qui travaillent dans les planchers, ici dans les usines, dans les entrepôts, mais il y a aussi les gestionnaires, il y a les boss, les superviseurs. Fait que c'était comme à force de s'approcher à la gestion un peu que j'ai réussi comme à trouver la confiance pour me faire franciser.
Et dans votre cas, Maria, vous, votre premier emploi, c'est à la sortie de l'École polytechnique, j'imagine?
Oui, en fait, quand j'ai fini, je travaillais pendant un an comme auxiliaire de recherche à l'École polytechnique avec une professeure. Et après, j'ai travaillé ailleurs comme chargée de projet à Sobeys, chez Sobeys.
Et votre emploi était en anglais ou en français à ce moment-là?
C'était en français, oui. Moi, je pense qu'il faut faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur. Et oui, on fait des erreurs, on fait des fautes, mais c'est juste comme ça qu'on s'améliore aussi.
Et donc, ouais. Si je comprends bien, aucune de vous deux, à part les 3 mois où Marcella a pu faire les cours, vous n'avez pas suivi de longs cours de francisation au Québec?
Non,
non.
Est-ce que vous pensez qu'il faut absolument apprendre le français pour avoir de bonnes conditions de travail?
Je pense que oui, mais ce n'est pas juste pour avoir de meilleures conditions de travail, mais je pense que c'est pour mieux s'intégrer ici au Québec. Je pense que si on vient ici, c'est pour faire partie d'une communauté, mais donc il faut qu'on parle la même langue, il faut qu'on parle le français. On ne peut pas dire, non, mais je parle juste l'anglais, ils vont me comprendre. Non, je pense que c'est à nous aussi de faire cet effort, de dire, mais moi je viens ici, ok, donc qu'est-ce que ça prend pour que je sois mieux intégrée? Ça prend le français, d'accord, je vais l'apprendre.
Et Marcella?
Mais pour moi, je trouve que dans n'importe quel milieu professionnel, on devrait tous avoir accès à la francisation quand ce n'est pas notre langue maternelle. Malheureusement, c'est ce qui nous manque comme société, de pouvoir établir plus de programmes de francisation. Et on est en train de construire un comité de francisation, mais ce n'est pas juste pour les immigrants, c'est pour les gens qui sont Québécois, Québécoises, mais qui veulent améliorer son sort parce qu'ils ont des problématiques à composer des courriels, parce qu'ils composent des courriels, ils écrivent comme ils les parlent. Comment on peut faire pour transférer les connaissances quand la personne va partir à la retraite? T'sais? Prends un immigrant, puis prends-le sur ton aile, puis la personne va se sentir valorisée. Fait que on est en train de créer comme des petits projets pilotes et les gens ils ont dit oui. Puis on a 2-3 groupes qui sont en place en ce moment. Fait que moi, je les vois plus dans le sens social, que ce ne soit pas juste penser que c'est un requis, mais que c'est la base d'une meilleure société.
Donc, que le français devienne le lien entre chacun.
C'est comme les communs dénominateurs, si on peut dire. Parce que, si, moi, je disais tout le temps, dans mon syndicat, je disais, la plupart des personnes sont nationalistes qui veulent garder le français, mais on veut aussi devenir des citoyens, on veut devenir aussi fiers Québécois, Québécoises. Mais si on les laisse juste cette fardeau au gouvernement qui sort des programmes pour nous franciser, mais on n'avancera pas plus. Mais si on se met tout le monde ensemble, moi, je pense qu'on pourrait avancer plus rapidement dans cette même cause.
Oui, je comprends. Et vous, Maria?
Pour moi, je pense que c'est la communication, l'élément le plus important quand on s'intègre dans un nouvel emploi. Donc, je pense que oui, absolument, apprendre le français, c'est primordial pour toute personne résidente ici au Québec.
Et c'est quoi votre situation d'emploi en ce moment?
Moi, je travaille à la STM depuis 2021, en fait. En fait, moi, j'ai fait tous les remplacements et l'intégration de la flotte de la STM. Donc, moi, je m'occupe une partie des véhicules de la STM, pas des autobus, mais on appelle des véhicules de service. Donc, ce sont tous les véhicules qu'on utilise pour faire l'entretien, soit des autobus ou du métro.
Et Marcella?
Et moi, je travaille chez Hydro-Québec. Ça fait 12 ans que je suis employée chez Hydro-Québec. Et mon vrai emploi, c'est conseiller stratégique. Donc, moi, je suis complètement attachée à la gestion. Fait que je les aide à trouver les meilleures stratégies pour l'administration des contrats et la gestion des projets de grande envergure.
Okay.
Mais aujourd'hui, depuis les 4 dernières années, c'est plus un militantisme que j'ai fait chez Hydro-Québec. Je suis directrice syndicale. Ça fait 2 ans que je suis sous les postes. Puis, en ce moment, on a énormément questionné la convention collective pour dire comment on peut amender plusieurs articles de la convention collective pour que la réalité des immigrants soit aussi prise en considération puis qu'on puisse avoir une légitimité sur les droits des personnes racisées.
Et Marcella m'a fait penser une chose. Moi aussi, je suis déléguée syndicale et je ne l'ai pas mentionné.
Mm-hmm. Sincèrement, là, félicitations, hein, les deux. Vous avez fait un bon assez incroyable. Marcella, j'aimerais savoir, c'est quoi les études que vous aviez avant d'arriver au Québec? Et si, en arrivant au Québec, vous avez pu poursuivre d'une façon ou d'une autre ou pas?
Je suis diplômée en administration des affaires et puis j'ai 2 spécialisations, dont maîtrise en gestion des projets puis commerce international. Et en arrivant ici, bien, j'étais reconnue juste avec un DEC, donc un diplôme des études collégiales, et je n'ai pas retourné aux études.
Et est-ce que vous considérez que l'emploi que vous avez maintenant reflète un peu les études et l'expérience que vous avez eues?
aujourd'hui, je suis rendue à être reconnue pour toute l'expérience que j'ai, pas nécessairement sur les diplômes, parce que je n'ai pas de support comme diplôme, comme tel, pour dire, mais j'ai une maîtrise de l'ATS ou une maîtrise de, un baccalauréat d'une université francophone, québécoise, canadienne. Mais ça a été beaucoup d'efforts. Et je les vois souvent avec les gens qui sont autour de moi, que ça, comment c'est difficile quand tu n'as pas la reconnaissance des diplômes ici.
Ouais, de monter les échelons un par un.
Tout à fait.
Mm. Est-ce que vous avez des exemples dans votre parcours professionnel où vous êtes rendu compte que votre niveau de français n'était pas assez élevé ou est-ce que ça vous a causé un handicap?
Pour moi, c'était plus prendre la parole devant le public. Mm-hmm. Donc, c'était ça. Donc, pendant un an et demi à peu près, j'étais chez Toastmasters. Je me suis dit, il faut que j'améliore comme, cette habileté. Et en même temps, mon français aussi. C'est ça. Donc, moi, j'ai parlé à mon gestionnaire. Et lui, il m'a suggéré qu'on prenne des cours de théâtre. Et finalement, je me suis dit, je vais faire ça. Et là, j'ai commencé. C'était chaque samedi à 8h du matin.
Et vous pensez que c'est le fait que c'était en français que ça vous gênait?
Oui. Il y avait un peu la langue, mais aussi comme la peur de faire des erreurs devant le public.
Mm-hmm. Ouais. Je comprends. Et vous, Marcella?
Moi, dans mon cas, c'était pendant les ateliers de sensibilisation. Je voyais que, surtout les Québécois, Québécoises, ils faisaient comme, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est à ce moment-là que j'ai dit, wow, je suis pas en train de passer les bons messages avec les bonnes paroles. Donc, je me suis virée vers mes enfants et j'ai dit, là, il va falloir qu'on parle qu'en français. Et je reprenais ce que je venais de dire. Et ils m'ont aidé à trouver, mettons, des capsules de perfectionnement français que j'ai payées personnellement, et ça paye aujourd'hui. Mais je sens que mon français est beaucoup plus fluide aujourd'hui. Et mon conjoint aujourd'hui m'aide beaucoup, surtout la prononciation. Parce que c'est ça qu'on a identifié. Moi, j'ai identifié comme hispanophone, quand tu viens de l'Amérique latine, l'accent est tout le temps la première des choses qui dérange les gens, l'interlocuteur. C'est-à-dire, ton accent est marqué, des fois, on ne te comprend pas. Beaucoup de répétitions des mots, beaucoup de pratiques des sons. Mais en même temps, je me dis, j'enlève ma couleur. C'est ma couleur, c'est l'accent hispanophone, mais dans ma cause, dans mon militantisme, je n'ai pas le choix.
Mm. Et vous avez senti ça quand vous avez travaillé, que parfois, ça bloquait parce que votre français n'était pas impeccable, disons? Non?
Oui, beaucoup, je me faisais reprendre par mes gestionnaires de dire... Est-ce que tu veux dire ça? Ou le poser la question à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on a compris la même chose que Marcella vient de dire? Est-ce que c'est là que je me suis dit, mon français n'est pas correct, n'est pas bon? Ça te fait remettre en question quand tu te fais dire des choses comme ça.
Vous êtes toutes les deux très débrouillardes, non? Parce que vous avez trouvé par vous-même la façon d'intégrer le français dans vos vies. Je voulais savoir, Maria, dans les différents milieux de travail que vous avez fréquentés, parce qu'ils sont plus nombreux, est-ce qu'il y a eu des ressources pour apprendre le français?
Non, pas du tout. Dans tous les emplois que j'ai eus, c'est étonnant, mais non. C'était plus laisser à nous-mêmes d'apprendre la langue par nous-mêmes, par nos moyens. Ouais.
Vos propres moyens, oui. Est-ce que... vous pensez qu'il y a des choses à la fois que les employeurs pourraient faire pour vous aider, mais aussi des trucs plus personnels ou individuels que vous avez patenté avec le temps pour apprendre le français et qui vous ont aidé finalement à gravir les échelons et à vous trouver dans la situation dans laquelle vous êtes, qui est quand même une belle situation là, professionnelle?
Et pour moi, je dirais une des premières choses que j'ai fait quand j'étais ici, mais quand je suis arrivée, tout mon ordinateur, tout a changé. J'avais rien en espagnol chez moi. J'ai mis tout en français. Je me suis dit non, tout maintenant c'est français. Donc ça c'est une chose pour moi. Je vois des fois il y a des personnes qui vont garder toujours l'espagnol dans son cellulaire, dans son ordinateur. C'était pas le cas pour moi. Moi, j'ai changé comme carrément. Et aussi, je pense qu'il faut toujours s'entourer de personnes d'ici, vraiment. Il faut pas avoir peur. Je pense que ça, c'est l'élément bloquant pour un immigrant. Donc, la peur de ne pas réussir, la peur de... je ne sais pas, mais je pense que la peur, c'est la plus grande, le plus grand bloquant pour n'importe quelle personne. Donc, je pense que ça, c'est le plus grand message. Mais aussi, je pense qu'il faut avoir une vision, qu'est-ce qu'on veut, où on veut s'en aller. Et c'est sûr qu'il faut avoir la patience. Ce n'est pas du jour au lendemain que les choses vont arriver comme nous, on les mérite. Donc, il faut être patient, il faut être déterminé et il faut savoir s'entourer des bonnes personnes pour y arriver.
J'aime ça, les mots de Marie. Moi, je dirais, au niveau de la désorganisation, ne pas avoir peur d'essayer de mettre en place des programmes pour garder cet objectif commun de franciser les gens. Puis être innovateur, être créatif, puis oser, si ça ne fonctionne pas, mais mettre en place quelqu'un d'autre. Puis cibler des gens qui ont cette passion pour mettre au défi les statu quo des organisations.
Mm-hmm. Ben, je voudrais vous remercier infiniment. Sincèrement, vos parcours sont extrêmement inspirants. J'ai envie de dire que les gens, ils voient souvent le résultat. Ils regardent où vous êtes rendu, mais ils ne voient pas le chemin qui est lourd, qui est difficile, qui est semé d'embûches et qui nous fait pleurer des fois. Donc, je veux juste vous dire que c'était vraiment gentil de votre part de nous avoir montré un peu ce chemin-là que vous avez parcouru.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Non, mais tu sais, non seulement elles ont réussi chaque épreuve que la vie leur a présentée, mais elles font en sorte d'aider les gens à traverser ces mêmes épreuves avec plus de douceur et plus d'accompagnement. Que dire de plus? Si vous aussi, vous avez envie de tendre la main, allez-y! Prenez le temps d'observer autour de vous si vous voyez quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Une petite conversation en français, un coup de main avec la lecture d'un document, partir un comité pour la francisation dans votre minute de travail peut-être? Pourquoi pas? Dans le prochain épisode, on va à la rencontre de deux jeunes étudiantes d'origine congolaise tout aussi intéressantes, qui ne se laissent pas intimider par leurs différences. D'une langue à l'autre est un balado de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec dans le cadre de la campagne « Travailler en français au Québec, c'est un droit ». Une production de Casadel Film. Animation, Caroline Dawson. Réalisation, montage et mixage, Christian David. Productrice, Camille Lavallée-Prairie et Marie-Jeanne Englehart. Coordonnatrice de production, Ariane Lheureux. D'une langue à l'autre a été rendue possible grâce à la contribution financière du ministère de la langue française du gouvernement du Québec.